Pierre-Yves Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le stratégiste chez Alpha Value. On va parler avec vous, bien sûr, de marché, de perspectives sur ces marchés. Est-ce que, à l'heure où on parle ensemble, en ce mois d'octobre, il faut forcément mettre la Grèce, je dirais, dans tous les tableurs, dans tous les pour évaluer un scénario, pour le tester? On est obligé de mettre cette question grecque au centre de tout investissement?
Malheureusement, la réponse est oui. Ma réponse n'aurait pas été oui il y a encore 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, il est évident qu'on sait désormais que la Grèce, effectivement, a la plus grande difficulté à respecter ses propres engagements. Et on sait aussi que le marché veut une solution grecque. Et on sait aussi que la solution apportée face à ces risques souverains passe par un ajustement du secteur bancaire. Et donc, mis bout à bout, ce point de départ qui est la Grèce est devenu un problème véritablement économique concret pour l'ensemble de l'espace européen et est obligé de reconnaître que les termes de croissance qu'on anticipait sur 2012 ne pourront pas être réalisés.
Ça veut dire concrètement qu'en termes d'investissement, on le voit au jour le jour, hein, on voit cette volatilité, on voit ces allers-retours sur le secteur bancaire. On va dire que le secteur bancaire fait aujourd'hui le marché en fonction de ses bonnes ou mauvaises nouvelles. On a eu plutôt des mauvaises nouvelles récemment. En dehors de ça, est-ce qu'effectivement, on peut dire que l'ensemble de la cote est touchée par ce qui se passe?
Oui, par effet en cascade, parce que le scénario aujourd'hui qu'on commence à entrevoir et qu'on refusait évidemment d'accepter, c'est un contexte dans lequel les banques sont en difficulté, sont obligées de réduire leur métier de prêteur, et donc affectent l'économie réelle. Et au-delà de toute réflexion sur la zone euro, au-delà de toute réflexion sur un nouveau ralentissement d'origine américaine, par exemple, il y a quand même ce constat que le secteur bancaire étant fragilisé, mécaniquement, il réduit donc ses encours à l'économie, et donc ça veut dire une moindre croissance sur la zone européenne. Et ça, c'est des scénarios qu'on n'envisageait pas avant l'été, soyons sincères.
En termes de valorisation sur ces marchés, justement, compte tenu de cette crise assez forte, on peut se dire, on a pu entendre parfois dire oui, les marchés actions, notamment, ne sont pas très chers. Enfin, compte tenu de cette ambiance, on peut se dire
Alors,
ça vaut presque rien de dire pas très cher, puisqu'il y a une peur, importante.
Évidemment, on est tous menés par la peur, donc les valorisations sont devenues absurdes. Dans certains cas, il est vrai. La difficulté, évidemment, pour nous, c'est d'arriver à mettre un prix sur cette peur, c'est-à-dire combien va-t-il manquer de croissance dans les résultats, et donc, par construction, quels sont les multiples sur les actions européennes. Et un premier exercice qu'on a pu mener il y a déjà une petite dizaine de jours, c'est de considérer qu'au lieu d'avoir un PE, donc le fameux multiple de 8 sur 2012, en fait, on est probablement, en intégrant un scénario de défaut de la Grèce, défaut plutôt ordonné de la Grèce, on est plutôt déjà sur un PE de 12. Et ça, c'est avant d'avoir de l'information sur la nécessité de reconstruire le secteur bancaire, éventuellement un ralentissement de l'offre de prêts par les banques. Donc, on pourrait même imaginer que le PE implicite sur 2012 est plutôt plus élevé que les 12 que je viens de citer. Voilà, alors le problème, c'est qu'on court en quelque sorte après l'information et qu'on n'a aucune capacité de projection au-delà de cette peur pour arriver à reconstruire un raisonnement un peu robuste sur le prix des actifs actions. Donc, c'est un moment délicat.
Ça veut dire forcément qu'on est obligé d'être prudent en termes d'investissement dans cette période-là, d'aller. Alors certains font du stock picking, d'aller chercher des secteurs qui peuvent être immunisés face à la crise. On se demande aujourd'hui quel secteur peut passer à travers ce type de crise.
Non, on voit bien que l'urgence de revenir en cash sur toutes les classes d'actifs fait que finalement tous les secteurs souffrent. Néanmoins, on sait bien que ce sont aussi des moments de grande opportunité pour les gens qui ont le luxe d'avoir justement des liquidités et de pouvoir prendre des positions longues en termes d'échéance d'investissement. Donc quelqu'un qui a un portefeuille dans une optique 2-3 ans, évidemment, est en train aujourd'hui d'observer des cours qui sont parfaitement attrayants. Donc je crois que c'est un peu le raisonnement qu'il faut avoir. Tout le monde n'est pas avec une situation d'endettement pour avoir acheté des actions. Beaucoup de gens constituent un portefeuille au sens d'une épargne. Et dans ce cadre-là, le raisonnement consiste à accumuler des actifs de très bonne qualité, comme les valeurs du CAC 40, ne pose pas de problème.
On avait un certain sentiment, hein, sur les indices qu'on allait retrouver les plus bas des années 2009. Et puis, effectivement, compte tenu de cette ambiance et du fait qu'on ne trouvait pas de solution sur la Grèce, est-ce que si on trouve une solution, finalement, on pourrait éviter ce type de scénario?
C'est ce qu'on se plaît à croire, évidemment, c'est de se dire finalement acheter sur la nouvelle, hein, c'est-à-dire trouver une solution grecque qui passe par des pertes plus ou moins importantes pour les détenteurs de cette dette souveraine grecque. C'est un peu le sentiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc plus le calendrier sera court de ces annonces sur la Grèce, meilleur il sera pour les porteurs d'actifs financiers. On doit néanmoins être prudent parce qu'on pensait qu'on avait un accord en juillet, que cet accord allait justement débloquer un petit peu le sentiment sur la Grèce. Et en fait, il y a eu un mécanisme contraire puisqu'il a objectivé pour la première fois qu'on pouvait perdre de l'argent sur les actifs souverains. Donc on a ouvert la boîte de Pandore et donc on a appris la leçon.
Justement, ça veut dire aussi que sur les actions européennes, ces questions de dette souveraine sont effectivement prégnantes et qu'un investisseur peut peut-être plus choisir, comme il faisait avant, tel leader européen, mais s'il est dans un pays à risque, est-ce que ça peut jouer ça?
Alors, c'est un point intéressant. La plupart des grandes sociétés cotées effectivement dans l'espace du Stock 600, hein, qui est un peu cet univers, sont finalement assez peu locales. Donc après, elles souffrent de leur drapeau. Une société grecque, évidemment, reste perçue comme une société grecque. Mais il est rare qu'une société soit vraiment dépendante de son économie locale. Donc j'aurais tendance à dire que si c'est un bel acteur à l'échelle de l'Europe, peu importe sa géographie de départ, et on le voit avec Telefonica, par exemple, qui est quand même la plus belle société du secteur télécommunications, qui résiste plutôt bien. On le voit même sur des Santander, qui est donc une banque espagnole, mais leader parmi les très grandes banques, finalement, résiste pas si mal que ça.
Alors, il y a eu aussi une tentation dans cette période-là, un peu difficile, d'aller chercher des valeurs qui distribuaient du dividende. On peut aussi se poser la question jusqu'à quand elles vont distribuer un bon dividende.
Alors, il y a un élément que j'aurais dû évoquer tout à l'heure, c'est la richesse aujourd'hui des entreprises non financières. Elles ont des bilans extrêmement sains, une capacité de générer des free cash flow assez conséquents, pas dire très conséquentes, de qu'a priori, elles peuvent bénéficier en quelque sorte de la conjoncture de faibles prix pour soit acquérir d'autres affaires, soit continuer de verser des dividendes sans la moindre difficulté dans l'hypothèse où ce qu'on craint comme ralentissement ne dure pas plus de 2 ans. Donc oui, a priori, les valeurs à dividendes, surtout celles du secteur des télécoms, qui sont les plus gros contributeurs, a priori ne sont pas en risque sur les dividendes et on n'a pas de raison de changer ce discours aujourd'hui.
Donc il y a peut-être le parachute en quelque sorte du côté des entreprises qui sont dans une meilleure situation aujourd'hui et qui peuvent tenir pour les plus fortes d'entre elles cette crise.
Je crois qu'il n'y a pas trop de soucis de ce type-là. Par rapport à la situation qui a prévalu en 2008, fin 2008, quand les entreprises se sont fait surprendre par les incidences de la crise financière, aujourd'hui on a des affaires qui sont parfaitement préparées.
En conclusion, quels sont les grands enseignements et quels sont les points que vous mettez en avant aujourd'hui pour investir? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que tout ça se règle?
Alors, on a un inventaire de sociétés dites défensives qui ont énormément souffert et dont les qualités ne sont pas vraiment discutables. Je pense à certains groupes de distribution européens qui sont au plus bas, comme des Deleuze, comme des Ahold, comme des Casinos, sans même parler d'un Carrefour sur lequel les interrogations stratégiques. Donc on trouve quand même de très très beaux papiers de ce type-là. On trouve dans les défensives des sociétés qui ont des bons parcours boursiers aussi, je pense à des BIC, des Essilor, donc sur lesquels on est typiquement dans des situations de très bonne maîtrise de leur marché et de gestion traditionnelle qui leur réussit. Donc il y a dans l'univers défensif, c'est-à-dire sans prendre de risques véritablement sur les thématiques de croissance, quand même des choix qui sont assez nombreux que l'on peut faire en termes de constitution d'un portefeuille à bon prix. Pardon.
Merci d'avoir fait le point avec nous, plaisir. Pierre-Yves Gauthier. Rappelez que vous êtes donc stratégiste chez Alpha Value.